La nouveauté rock française avec Chris.
Bienvenue à toutes et tous dans ce hors-série numéro 8 de la nouveauté rock française sur Restless consacrée à Avalon Bloom. Alors j'ai le plaisir de recevoir...
Sam, je suis chanteur guitariste du groupe Avalon Bloom.
Ouais, Mathieu du coup, deuxième guitare rythmique ou pas que rythmique du groupe.
Et Tanguy à la basse.
Et il manque
Nino le batteur.
Qui peut
raison administrative, il a dû aller un peu à droite à gauche. Bon voilà, peut-être qu'il arrivera en cours de route, on sait pas.
Alors, on se voit en amont du concert de ce soir au Supersonic, qui est la deuxième venue au Supersonic de l'année, hein, si je me trompe pas. Comment allez-vous ?
Bah, ça va super en vrai, hein. Franchement, on a enchaîné pas mal de dates là en début d'année. On a plein de belles nouvelles en ce moment. Donc, franchement, ça roule, hein.
Ouais, ça roule. On a notre EP qui est sorti le 9 mai dernier, là, justement. The Words Where Many Words Fit, justement. Qui est dur à dire. Mais en tout cas, on est très contents. On a fait un rockstore complet en janvier à Montpellier. On a un point éphémère qui va arriver le 4 décembre aussi. Et du coup, voilà, on est en tête d'affiche, justement. Et voilà, que des bonnes nouvelles pour le moment. Et on espère que tout ira pour le mieux, quoi.
Très bien. Vous êtes originaire de...
Alors, ouais, moi, je suis originaire de Marseille, mais Montpellier. Montpellier, ouais.
C'est la base ?
C'est la base. C'est là où on s'est rencontrés, ouais.
D'accord. Vous êtes rencontrés depuis combien de temps, d'ailleurs ? C'est une histoire qui date depuis quand ?
Bah alors, on va dire que l'histoire entre nous quatre dure depuis 3 ans, maintenant.
Oui.
Ça a commencé à faire un petit couple, mais...
L'amour dure 3 ans.
Je sais pas, tout est relatif, mais voilà, ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Et voilà, donc on a commencé de base, on était que 3, puis Mathieu est arrivé, et là, on a commencé à faire Avalon Bloom, on a sorti, du coup, l'album... Au bout d'un an de jouer sans tout ça, et après voilà, nouvelle EP, nouvelle direction, affirmation de certaines positions, des événements dans la vie qui font qu'on a voulu tenter de nouvelles choses. Voilà, on est assez content du projet en général, et on est content de comment ça se profile aussi pour les prochains.
Et vous êtes très bien à Montpellier, ça vous va comme ville?
Voilà, certains aimeraient bouger à Paris, pour l'instant on essaie de rester tous sur Montpellier pour quand même avoir ce truc assez productif où on peut se voir souvent, parce qu'on est... On est certes un groupe de musique, mais on est aussi un groupe d'amis avant tout. Et on se voit tout le temps et on aimerait que... Enfin, pour nous, c'est important de garder ce contact aussi amical hors groupe pour qu'on puisse juste parler d'autres choses et enfin juste être des amis aussi à côté, quoi. Et voilà.
Alors, votre nom de groupe est très beau, ça on vous l'a peut-être déjà dit.
Merci.
Alors, entre Avalon de Brian Ferry, Roxy Music, et Bloom, le personnage d'E-Wings, peut-être qu'on vous l'a dit aussi, enfin, gros bisous ma fille en passant. Vous vous placez où entre les deux quelle a été votre inspiration pour le choix de ce nom de scène?
En gros, justement, je raconte l'anecdote que j'ai dit tout à l'heure. En gros, de base, on s'appelait Underskin, à la toute base, sauf qu'on a trouvé que ça faisait un peu marque de caleçon. Et alors du coup, on s'est dit bah il faudrait qu'on change de groupe. Et justement, tu viens de le dire, moi je suis un grand fan de Brian Ferry et de Roxy Music. Et un jour j'écoutais Avalon et j'ai appelé Tanguy et le groupe et j'ai dit putain, Avalon c'est vraiment très stylé, et genre il y a une belle iconographie autour de ce nom là que ça soit la mythologie arthurienne ou quoi. Et du coup, bah justement, Tanguy derrière a dit bah moi je kiffe bien Bloom, et on a dit wow, Avalon Bloom ça sonne super bien. Et en fait, même les deux mots, la définition de ces deux mots colle bien ensemble, et du coup voilà, c'est...
Ah ouais, c'est pas du tout un oxymore, hein. ça se complète très très bien, c'est très très beau.
Ouais, carrément, ouais. Bloom, le côté un peu floral, machin, il y a quelque chose qui match, qu'on aime bien, même dans la sonorité, je sais pas.
Alors, côté discographie, hein, ouais. On continue un petit peu dans ce côté fleuri, ça devient un premier single, Iron Love. L'amour est un alliage qui se doit d'être solide, ou est-ce qu'il y a une part d'honnêteté, de confiance, de transparence pour rendre solide le tout ? Est-ce que c'est une nécessité ?
Ah, waouh, bonne question, c'est profond. Hein. Est-ce que l'amour est un alliage, ou est-ce qu'il doit y avoir une part d'honnêteté ? Je sais pas, je dirais que ça dépend tellement de chacun, ça dépend tellement du moment dans lequel on est dans la vie, ça dépend de ce qu'on construit, ce qu'on veut construire. Et donc, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est un alliage hyper fort, un alliage de plein de métaux, de plein de situations. situation, je sais pas. Et pour d'autres, ça va être quelque chose de peut-être plus aérien, plus moins solide, en tout cas moins figé, je dirais.
D'accord, très bien. Et cette, bon, ce premier single, il a fait date, hein, bien sûr, c'était en 2022. Il a précédé donc, alors, un premier EP qui avait été annoncé, je ne l'ai pas honnêtement retrouvé, ou est-ce que c'est l'album directement ?
De base, en fait, on voulait faire un EP parce qu'on avait enregistré 5 sons, sauf qu'on a fait un premier enregistrement qui ne nous a pas du tout plu, où il y avait Iron Love, la version qu'on a faite. Du coup, on était juste satisfait d'Iron Love. On s'est dit, bon, ok, on va aller faire les 4 ou 5 autres sons en studio. On a fait un essai en studio, on n'a pas du tout aimé. Du coup, on s'est dit, merde, on est quand même pas mal dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit, on reste ensemble ? Est-ce que. Sur ce truc de son, pas de séparation du tout, mais plus sur ces sons-là. Ou est-ce qu'on s'est investi sur un projet, on met plus de sons ? Et du coup, on est parti sur ça. Donc, du coup, en fait, on est parti directement sur le premier album. Surtout qu'en fait, c'était le premier opus. Du coup, on savait pas du tout comment ça marchait. On a fait de la promo à la va-vite, en sortant des singles à 2 semaines d'intervalle, 3 semaines. Et au final, on a tout enregistré du coup nous-mêmes dans une cave, dans la cave de Sam. À Montpellier, il y avait un appartement avec une cave. On a tout enregistré nous-mêmes, mixé nous-mêmes avec Benji, notre ingé son qui nous suit depuis le début. Et du coup, c'était vraiment le projet. Enfin, le but, c'est de faire un peu un truc. C'est pour ça qu'il s'appelle Avalon Bloom. C'est vraiment de dire, ok, on est ce groupe-là, on fait ce genre de musique-là. Ce projet, c'est notre projet, c'est notre petit bébé, c'est le premier truc qu'on fait. Et voilà. Et après, du coup, on est passé sur le format EP pour un peu marquer la cassure et avoir ce début de nouvelle histoire, en fait. Et ce truc de cassure un peu et de proposer de nouvelles choses, quoi, entre guillemets. De montrer un peu aussi la montée en grade au niveau de l'enregistrement, du mix. On est passé par, on est allé en studio cette fois-ci où ça s'est très bien passé parce que du coup, on avait notre ingé son. Et après, on a eu l'idée de vouloir avoir un son qui était pas forcément français malgré notre accent ou quoi. Et plus avoir des sonorités qui sont vachement américaines. Et donc, du coup, on a envoyé ça aux États-Unis, mixé par Wyatt Oberhauser qui mixe pas mal de shoegaze et beaucoup de darkcore, et donc du coup retrouver cette dynamique dans la batterie surtout et au niveau des voix et voilà.
Et justement dans cette transition, notamment sur les fondements, ce premier opus il fixe une trajectoire, il est votre reflet ou clairement une première pierre justement à votre édifice. On se dit on est là ensemble pour longtemps, quel a été le déclic pour franchir cette étape de l'album?
Les étapes de l'album, tu veux dire le premier EP, le premier projet?
Oui, le projet, c'est-à-dire que vous vous sentiez vraiment très bien ensemble,
ouais.
Prêt à faire le pas, ou qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à cette étape de l'album? Parce que l'album, c'est comme une masse quand même. Hein.
En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà sorti notre Iron Love, comme il a dit, et en fait, on voulait vraiment marquer une étape dans la vie du groupe, parce que aussi c'était un rêve d'enfant de sortir un album. Forcément, on avait vraiment envie d'avoir un truc qui nous appartienne à nous, fait par nous et pour le jeune public de Montpellier et pourquoi pas la France. Et du coup, ce qui nous a marqué aussi, c'est qu'on voulait aussi avoir une vraie DA artistique autour de ça, qui soit visuelle et musicale. Et du coup, on voulait avoir un truc qui nous appartient vraiment et qui commence à définir justement la première pièce de l'édifice Avalon Bloom, on va dire. Et après, du coup, ce qui nous a permis aussi d'avoir un album, ça nous a permis aussi d'aller dans d'autres villes que juste Montpellier, parce que justement, quand on démarche énormément toutes les autres villes, ils demandent justement, ok, qu'est-ce que vous avez sorti, c'est quoi votre discographie, et si t'as pas de discographie, tu peux pas trop aller jouer ailleurs, quoi. Et du coup, c'est sûr que ça a été aussi notamment le Supersonic, mais ça a été justement un peu un cheval de bataille, parce qu'on voulait justement partir de Montpellier et commencer à aller jouer dans d'autres villes en France.
D'accord, c'est que ça ouvre les portes.
Ouais, ça ouvre les portes carrément. Et puis il y a toujours eu ce truc aussi de faire comme les grands, quoi. De sortir l'album, de sortir. Ouais, ça nous faisait rêver.
C'est iconique.
C'est iconique. C'est un album, c'est un projet complet, machin.
Alors cet album, justement, la pochette est belle.
Merci.
Il vous arrive d'offrir des fleurs?
Moi, il nous arrive d'offrir des fleurs, bien sûr.
Ouais. Moi, tout le temps. J'adore ça.
Des fleurs. Attends, mais.
Est-ce qu'il nous arrive?
Ah oui, ouais. Oui, pour. Ouais.
Moi, jour. J'en offre tout le temps.
Toujours.
Des fleurs musicales.
Alors, c'est vrai que c'est une pochette qui est lumineuse avec ce contraste, avec d'autres photos d'ailleurs, hein, qui sont plus sombres de vous quand on voit sur les réseaux, notamment un petit peu à la White Stripes, entre ce rouge, noir et blanc. Qui contraste avec cette pochette lumineuse et aussi bon, dans les textes, on va dire, ou surtout dans le côté lumineux de vos compositions. Mais effectivement, est-ce que vous avez conscience de ce côté lumineux de cette première pochette et ce côté un peu plus sombre dans d'autres images de vous sur les réseaux?
Bah en fait, il y a vachement aussi l'EP, on voulait vachement amorcer, on voulait faire une sorte de cassure. Au début, si on regarde le fond, en fait, Mathieu et moi, c'est lui et moi qui gérons toute la DA, tous les visuels d'Avalon, c'est nous qui gérons tout. Et on avait l'idée de base d'avoir un truc très très coloré qui puisse taper à l'œil et donc vraiment avoir ce truc un peu fédérateur qui reste toujours aujourd'hui, mais on voulait vraiment avoir ce truc très lumineux, très joyeux, là où au final par la suite on s'est dit ok, l'EP au fur et à mesure d'écriture on a eu certaines choses qui ont fait qu'on a voulu écrire certaines chansons dont The Fall, Teenage Dream, Outfix, tout ça, et en fait on s'est dit ok, bah, on va essayer d'avoir une image qui est encore plus cohérente, parce que c'est vrai que sur un premier projet je trouve que c'est toujours assez compliqué d'être assez cohérent niveau son, niveau visuel, d'avoir une certaine cohérence en fait au global, là où sur l'EP on a vraiment cherché à avoir quelque chose d'ultra ultra poussé entre guillemets et de cohérent, et donc on a vraiment amorcé très en avance toute la DA un peu plus sombre en noir et blanc, à avoir certaines couleurs qui ressortent, d'autres qu'on voulait plus du tout, et aussi faire le choix de un peu déléguer aussi notre taf avec Mathieu, parce qu'on retouchait toutes les photos. Quand on avait des photos de concert, on retouchait nous automatiquement, sinon on postait pas, on était ultra strict. Là où on s'est dit en vrai, viens, on essaie de se poser un peu plus avec des artistes, d'où aussi le fait de déléguer le mix. Enfin, ça a été vraiment un travail aussi sur ça, et on a fait appel à Kalou Linkin sur Insta, qui a une patte qui est ultra prononcée et qui se rapproche vachement de ce qu'on voulait divulguer, un peu à l'image de Rendez-vous aussi. Bon, Rendez-vous, leur projet plus dark, mais le côté un peu plus sombre, etc. Voilà, je sais pas si ça...
Alors il y a un second opus qui est un EP qui est A World Where Many Worlds Fit, excusez-moi la prononciation,
t'inquiète pas, il est dur à dire.
Sorti le 12 mai, c'est bien cela?
Non, le 9.
Le 9 mai. Alors, est-ce que vous avez hésité sur le format EP contre album? Est-ce que vous avez été unanime sur ce choix? Finalement, est-ce que l'EP c'est mieux que...
Je sais pas si c'est mieux. En tout cas, nous, après avoir sorti un album, on avait envie aussi de... Parce qu'en fait, du coup, on a continué à composer de notre côté juste après avoir sorti le premier album. Et du coup, ce format d'EP, il nous permettait aussi, comme il disait Tanguy juste avant, de mettre une cassure, d'imposer aussi une autre énergie aussi dans laquelle on était, dans laquelle on composait, dans l'écriture. Donc en fait, c'est un peu de se dire, ok, ce petit monde là, il a plein de petits mondes, et cet EP, il représente un peu ce petit monde qu'on voulait sortir. Ça permet en fait de raconter une histoire un peu plus courte, mais pas moins fournie, je pense.
Alors justement, dans cette histoire de cet EP, parce que il y a une histoire en fait, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il y a aussi une part d'imaginaire quelque part?
Ouais, totalement.
Ouais, bien sûr.
Par exemple, Teenage Dream, c'est totalement une histoire inventée, par exemple, que j'ai écrite de A à Z sur les paroles, en tout cas sur le texte, qui était vraiment une histoire que je m'étais inventée et que j'avais besoin de raconter, parce que je partais à Londres et je m'étais fait toute une histoire autour de ça, et du coup j'ai écrit toute une chanson autour de ça. Et en plus le refrain parle de Tanguy, parce que c'était une période où il allait pas bien, et du coup c'était une chanson un peu d'espoir que j'essayais de faire, mais en même temps mélancolique, et j'avais envie de faire cette part de rêverie, on va dire, et de réalité autour de tout ça. Mais après, il y a des chansons qui sont très vraies et d'autres qui justement ont beaucoup de parts de fiction dans la façon de composer et d'écrire.
Justement, Teenage Dream, alors il y a un onirisme planant, un peu de Smashing Pumpkins, je trouve, de Deftones, de Parrish. Ce titre n'est pas une lettre d'amour adressée à Katy Perry. Mm-hmm. Non, apparemment, pourquoi pas. Est-ce que vous ne seriez pas quelque part, là, on parle de groupe américain, me semble-t-il, vous ne seriez pas quelque part les nouveaux romantiques avec cette faculté à nous parler dans nos rêves? Quel message d'amour vous souhaiteriez adresser soit entre vous ou à votre public?
Alors moi, il est
vraiment... Est-ce qu'on réfléchit à un message d'amour à adresser à notre public? Je sais pas si on a un message d'amour spécifique à dire aux gens. C'est vrai qu'on a... Dans cette EP, on parle de rêverie, d'imagination. Il y a beaucoup de choses qui parlent d'amour, justement, de nos histoires personnelles aussi, de notre vécu, parce que c'est des choses qui nous marquent, et ça peut être de l'amour amical aussi, totalement. C'est pas forcément de l'amour romantique comme on l'imagine. Est-ce qu'on a un message à dire entre nous? Faut pas avoir peur d'aimer, j'en sais rien, c'est hyper cliché, mais faut pas avoir peur de se lancer, de vivre les choses à fond. Des fois, on fait des erreurs, des fois, on fait aucune erreur, et c'est pas grave. Et c'est l'important, c'est de le faire à fond, en tout cas, je pense.
Et surtout, ce qu'on cherche aussi à travers tous ces sons et ces sujets-là, c'est qu'en fait, enfin, c'est des sujets qui sont assez personnels à chacun au final, parce que, bah, comme on disait, je sais pas si on l'a dit, mais le premier album, il a été écrit par Sam quasiment dans la totalité. Et là où aussi sur cette EP-là, Mathieu, Sam et moi avons écrit chacun des chansons dessus. Et justement, en fait, ce qu'on voulait, c'est que traiter des sujets qui soient peut-être plus personnels au début et qu'en fait, qu'ils puissent toucher chacun. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, enfin, moi avec Dove Fall, ça, tout le monde s'est identifié au final à Dove Fall, passe un moment dans l'année, dans la promo de l'EP là. Moi, enfin, Sam avec Teenage Dream, Out of Fix You, Flower Bloom, on sait. En fait, chacun des sons qui ont été écrits, au final, était basé sur une histoire personnelle ou une rêverie personnelle.
D'accord.
En fait, chacun des membres, genre, s'est retrouvé dans ce son là, et c'est un peu ce qu'on a voulu faire, avoir ce truc un peu fédérateur dans le sujet et aussi dans le. Enfin, se dire que c'est tout ce qu'on écrit, c'est des choses qui sont peut-être un peu banales où les gens peuvent se retrouver et peut-être qu'ils peuvent avoir ce ressenti là à ce moment là et donc se dire, on n'est pas seul. Vous êtes pas seul et c'est pas des sujets de fou. On n'a pas parlé non plus de. Enfin, c'est pas des sujets révolutionnaires, mais c'est juste des trucs banals.
Mais justement, sur cette côté, pas se sentir seul dans le titre, dans l'autre titre, Missing, Chemistries.
Mais c'est
Chemistries. Bon, il y a un petit côté, je trouve, dans la voix d'Alex Turner. Et puis, il y a une basse aux sonorités de Cure. Plutôt shoegaze ce titre. Est-ce qu'on peut vivre seul ou on doit forcément vivre à travers le regard ou en la présence de quelqu'un?
Ça dépend. Je pense qu'on est dans une époque beaucoup basée sur l'image. Bah parce que les réseaux sociaux, parce que je pense que on est beaucoup confronté à notre image. Donc est-ce que on peut vivre à 100% seul? C'est dur à dire. Mais en tout cas, si on se satisfait de la solitude, et je pense que c'est important aussi de savoir se comprendre et être seul à 100% pour pouvoir comprendre les autres aussi. De se connaître vraiment soi-même, c'est important et ça parle un peu de ça aussi, le P de l'introspection.
Et votre avis sur les applications de rencontre, ça serait quoi?
Alors moi, je trouve ça, ça peut aider. Mais alors pour le coup, je trouve que c'est pas bien dans le sens... c'est un peu le marché du physique et pas trop du moral, et c'est dommage parce que du coup, le moindre petit défaut qu'on va trouver physiquement à la personne, on va la mettre à gauche et on va dire non. Alors que si on l'avait rencontré dans un bar et en face, peut-être que ce défaut, on n'en aurait rien à foutre. Et on se serait dit, ok, elle est juste sympa et tout, elle parle bien et tout, et c'est le côté dommage des applications de rencontre.
Dommage et dommage collatéraux, on va dire.
Ouais, ça fait louper des occasions d'aimer les défauts de quelqu'un, en fait. Là, direct, on va voir un truc physique qu'on n'aime pas, et puis voilà, c'est terminé, c'est dommage. Après, ça aide des gens, il y a plein de gens qui se sont rencontrés par ça, on est dans une époque aussi qui veut ça, donc pourquoi pas, mais...
Alors, dans votre nouvelle EP, on perçoit une nappe sensible, avec poétique, avec une tendance un peu viscérale parfois. Alors je dirais pas que ce sont les fleurs du mal de Baudelaire, mais plus les nymphéas de Monet, le côté fleuri, notamment la première pochette, mais dans le lien avec le nouvel EP. Pour autant, les fleurs occupent une grande espace dans votre répertoire. Quelles sont vos fleurs préférées?
Oh waouh, c'est hyper dur. Ouais, je te laisse commencer parce que toi, je suis sûr que t'en as des préférées. T'en as plein qui passent là.
Ouais, moi, mes fleurs préférées, c'est les œillets. Je sais pas trop pourquoi. C'est parce que peut-être ma mère, elle en plantait quand j'étais petit. Mais c'est mes fleurs préférées, personnellement. Et il y a Nino qui vient d'arriver aussi, du coup. Et
bonjour.
Bonsoir, Nino.
Voilà, j'avais un imprévu, désolé. Mais ma fleur préférée, c'est peut-être un peu cliché, mais je dirais la rose. Parce que déjà, toutes les couleurs, la rose noire, blanche, rouge, ça évoque des choses totalement différentes. Très romantique, très dur aussi, avec les épines, tout ça. Il y a un mélange un peu que j'aime bien. J'aime bien l'image de la rose, je trouve ça très, très beau. Voilà.
Moi, plus simple, c'est le coquelicot. Parce que quand j'étais petit, j'allais tout le temps me balader avec ma mère dans un champ. Il y avait tout le temps plein de coquelicots. Et voilà, c'est juste très simple, juste purement nostalgique, c'est tout. Voilà.
Très bien. Autre titre de cette EP, How to Fix You. J'ai trouvé qu'il était très fort, puissant comme du Linkin Park, et puis aussi ce côté Chemical Romance. Alors c'est un réel casse-tête de trouver comment garder une personne, comment on arrive à... Est-ce qu'il y a une recette miracle pour la conserver près de soi ou pas?
Ça me touche ce que tu viens de dire parce que j'ai écrit les paroles entièrement autour du sujet que tu viens de dire justement. En gros, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour garder une personne. Si tu veux la garder près de toi, cette personne, faut la laisser vivre un maximum de choses qu'elle a envie de vivre elle aussi de son côté. Et il faut pas justement se mettre des barrières entre deux personnes. que ça soit amical ou amoureux. Si tu veux garder une personne au plus profond de toi, faut juste accepter qui elle est et surtout pas mettre de barrière dans quoi que ce soit. Et c'est totalement pour ça que j'ai écrit les paroles de How to Fix You. C'est parce qu'en fait, on est juste des enfants et l'innocence des enfants, c'est justement, ils se laissent faire ce qu'ils ont réellement profondément envie de faire. Et ça vient totalement de là, en fait, du coup.
Alors, autre titre, j'allais dire majeur, dans cette EP, Dove Fall. Alors, c'est déjà doux et crémeux à la base, hein. Vous pouvez être fier de ce titre, c'est un hymne. Alors, effectivement, quel titre avez-vous conscience de son aura, l'aura qu'il dégage, soit entre vous, soit sur scène, vis-à-vis du public?
Est-ce qu'on a conscience de l'aura que ça dégage? Oui. Ouais, bah, en fait, quand on la joue sur scène, les gens, quand on entend les gens chanter le refrain, enfin, en fait, on sent qu'il y a une énergie qui se crée autour de ça. Est-ce que c'est de par les couplets, les effets? Je pense que c'est un peu un tout aussi. Elle nous touche d'une façon un peu particulière, cette musique, et on le sent aussi, on le partage avec les gens, et c'est un beau moment. Et moi, c'est un peu, tu vois, je regarde pas le manche de la guitare, je regarde devant moi et je vis le truc, et c'est beau à voir, quoi. On vit quand même un moment spécial avec Dove Fall.
Mais ce qui est aussi trop cool avec cette musique, c'est que c'est la dernière qu'on a écrite, et c'est un peu, ouais, elle a un peu un petit truc spécial pour nous, et voir qu'en fait, quand t'écris une musique et que tu vois que les paroles, même l'air, tout ce que tu fais en fait sur cette musique, les gens s'en rappellent et le chantent devant toi. Enfin, je pense que c'est l'une des musiques qui marche le mieux en live, alors qu'elle est sortie très récemment, quoi. Enfin, ce qui nous avait marqué, c'était au Rockstore, parce qu'en fait, on avait sorti le son la veille, je crois, la veille ou deux jours avant, et on a des vidéos où on entend les gens chanter, mais toi, enfin, 600 personnes qui chantent le son, alors que il est sorti de deux jours, et genre, on a complètement, enfin, on a bugué. C'était incroyable. Enfin, je pense que c'est l'un des sons qui marche le mieux après Nanana, qui est celui qui marche le plus en live, parce que c'est le plus fédérateur, on va dire. Mais c'est vrai que avoir un son autre que Nanana, même si ça, enfin, d'autres le font, hein, mais avoir un nouveau son qui puisse déjà marcher autant entre guillemets en live et qui puisse autant susciter l'engouement en live et même en général, ça nous a fait super plaisir, d'autant plus pour les paroles et tout. Enfin, on est trop contents, quoi.
Alors, côté live, le premier live, c'était en juin 2022 au Simple Fest à la salle Abric. Et précédemment, il y avait eu Madame, Johnny Carwash, Royal Republic. Vous vous en rappelez encore?
Ah oui.
Est-ce qu'on s'en rappelle?
Ah oui. Ah non, ah, c'est oui. Gravé dans ma mémoire à jamais. C'est le premier concert, c'était à la fois un peu à l'arrache, parce que c'était dans une espèce de... une salle dans le festival un peu municipale. Un peu une salle municipale avec une résonance un peu horrible. Et il y avait tous nos potes qui étaient venus. Je pense que c'est impossible d'oublier le premier concert, quoi, sur une scène. Ça avait sûrement plein de défauts, mais moi, j'en garde un souvenir de ouf.
Et puis, on a eu notre base de fans fidèles qui étaient déjà là, à Montpellier. C'est exceptionnel de voir qu'ils nous suivent encore maintenant, que maintenant, il y en a qui nous aident pour les concerts, en ingé son, en quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment le socle qui était déjà présent. Et moi, je me rappelle beaucoup du stress aussi. Parce que moi, j'étais extrêmement stressé. Mais par contre, ça fait un bien fou de le faire, d'avoir vécu ce moment. On a tous un très bon souvenir de ça. Et on avait quand même déjà bien préparé le truc, on avait déjà des t-shirts, on avait déjà tout ça, et on voit qu'on était déjà dans une volonté de créer un vrai projet, développer le truc, et du coup c'est un moment très fédérateur pour nous, quoi.
Alors actuellement vous êtes en tournée,
ouais.
Vous avez commencé donc à Strasbourg fin avril, vous serez vous êtes passé à Montpellier, vous repasserez à Montpellier, vous serez effectivement au point éphémère en fin d'année le 4 décembre.
Yes.
La vie de groupe en dehors de scène, c'est facile ou pas? La vie de groupe en dehors de scène, est-ce que c'est facile ou pas?
Alors oui et non, la vie de groupe c'est facile, et en même temps des fois ça peut être très difficile, parce que c'est quand même une communauté malgré tout, on vit en communauté, on a besoin d'être tout le temps disponible pour l'autre tout le temps, et des fois ça, il y a forcément des frictions à des petits moments, mais c'est jamais des grosses frictions ou quoi. Et aussi on communique énormément entre nous, donc du coup il y a jamais de réelles tensions, mais le but c'est de toujours, comme je le disais, d'être compréhensif tout le temps envers les uns les autres, et c'est ça qui fait aussi la force, c'est qu'on est meilleurs amis tous, et c'est une famille en fait. On essaye plutôt de le vivre comme une famille, et les défauts de chacun sont aussi leurs qualités, et du coup c'est pour ça que Avalon Bloom reste un noyau dur et qu'on s'aime beaucoup.
Alors ce soir, donc, c'est le concert Supersonic, est-ce que c'est une release parisienne ou pas par rapport à...
Ah oui, clairement.
Allemand, ouais, bien sûr.
D'accord.
Clairement, parce qu'en plus on a la chance de la faire du coup avec Curtis, le bleu, c'est vraiment la scène du sud qu'on met en avant ce soir, on va dire, et oui, tous nos concerts à Paris ont plutôt bien marché dès le début. On a vraiment un public qui nous suit à Paris. Et pour nous, c'est hyper important de le faire. En plus, au Supersonic, comme ça, entrée gratuite, ça va être vraiment un très très beau moment. Et on a hâte de faire découvrir cette EP au public parisien, quoi.
Alors juste, oui, pardon.
Puis surtout, c'était important pour nous d'avoir un lieu aussi ouvert que le Supersonic, dans le sens où nos musiques, c'est toujours dans l'idée d'être fédérateur, de donner quelque chose aux gens. Et le fait d'avoir un concert gratuit à Paris en fin de semaine, quand même, en jeudi soir, enfin, c'est très très bien. Et de base, c'était même pas prévu. On a juste demandé une date pour pouvoir la faire. Et au final, on a réussi à avoir cette date une semaine après l'EP. Donc c'est encore plus, enfin, on est encore plus content, et d'autant plus, comme a dit Nino, le faire avec Curtis et Le Bleu, pouvoir un peu représenter le sud à Paris. Et justement, ce que Nino disait, ce qui est important, c'est que de base, nous, on vient de Montpellier, mais à l'heure d'aujourd'hui, niveau auditeur, on est beaucoup plus écouté à Paris qu'à Montpellier, et au niveau même abonné sur Instagram en général, enfin, tout vient plus de Paris au final maintenant, et c'est quand même fou. Enfin, on est super content. On pensait jamais, pour nous, faire un Supersonic l'année dernière, c'était rêvé, et là, pouvoir le faire une deuxième fois en tête d'affiche pour notre release, etc., c'est incroyable. Top. Ouais, c'est incroyable.
Alors justement, on parlait de Curtis Homme. Le Bleu. Côté scène rock française, quels sont les groupes qui attirent votre attention actuellement, et quels sont ceux que vous souhaiteriez mettre en avant et dont on ne parle pas assez?
Moi, je pense, on peut dire les copains aussi qui enfin, moi personnellement, il y a Loons, enfin, on va dire à Montpellier, il y a Loons of Center qui sont font partie du très gros noyau de Montpellier au niveau scène rock. Avec nous, on est tous potes en dehors de la vie, enfin, en dehors du groupe de la musique, et je pense qu'il y a ces groupes là à mettre en avant. Donc Loons of Center, il y a Curtis du coup qui joue avec nous ce soir, qui ont une très très grosse patte, je trouve, et qui sont très très forts. Et si on peut prendre plus gros, après je peux laisser les autres parler aussi, donner leur avis, mais si on peut prendre plus gros, moi le groupe qui me touche, c'est Rendez-vous, parce que notre objectif à nous, c'est de toucher la scène internationale. Et ce qu'ils ont réussi à faire là récemment, revenir après je crois 4-5 ans sans, voire plus, sans album, et avoir une DA aussi visuelle et sonore, ouais, qui était autant poussé, enfin c'était fou en fait. Je trouve ça vraiment incroyable, et toute la DA un peu sombre qu'ils ont réussi à mettre, enfin vraiment redorer un peu leur, enfin pas redorer, c'est pas du tout ça, non, c'est pas du tout le terme redorer, c'est plus enfin ils ont réussi à vraiment mettre une cassure avec ce qu'ils faisaient avant. Justement, j'ai vu que la personne qui était au clavier est passée à la guitare, ils sont vraiment beaucoup inspirés du shoegaze, etc., Smashing Pumpkins, et enfin moi je trouve que la redirection, elle est vraiment folle. Bon, moi c'est un peu mes groupes je pense en France actuelle.
En scène française, bon du coup Tanguy a déjà cité les copains, donc je vais essayer de citer des gens qu'on connaît moins, mais ouais, je kiffe bien l'Elysée Strata qui j'ai beaucoup adoré le premier, deuxième projet, même le troisième, il y a vraiment des sons trop cool, et pour les avoir vus en concert, ça me parle beaucoup, donc ça fait plaisir aussi. Ils ont fait un KEXP récemment là, donc ça fait plaisir aussi de voir résonner un peu le rock français aux États-Unis, quoi. Dans l'Eldorado, il y a Slift aussi. On en a pas parlé, les Toulousains Slift qu'on a vu en concert à Marseille il y a pas longtemps, et gars hyper généreux dans leur délire, c'est assez ouf. Ils ont signé chez Sub Pop. Ça fait plaisir de voir des gars comme ça, des groupes comme ça signer à l'international et faire résonner la France, quoi. C'est trop bien, là.
Chester, pas t'es sûr.
Je pense qu'il y a Chest aussi, Chest, ouais, qui ont fait la première partie de Deeds, etc., avec Nico, Elliot. Enfin vraiment, moi j'adore ce qu'ils font. Enfin ça me parle beaucoup, et ils ont vachement, enfin ça fait vraiment pas du tout alors on n'est pas sur ce français, ouais.
Quasiment dernière question. Le téléphone sonne, c'est un groupe de renommée internationale au bout du fil. Il entend parler de vous, il souhaite que vous fassiez sa première partie. Et quel serait le groupe idéal rêvé?
Oh, alors là, je pense qu'on aura chacun.
On aura un chacun.
Moi, peut-être, là, comme ça, je pense à Turnstile. Ouais. Même si on est dans un style différent quand même, mais dans l'énergie, dans ce qu'ils apportent en termes de concert. Aujourd'hui, je pense que c'est l'un des groupes qui est l'un des meilleurs en termes de qualité de show. Donc moi, je dirais Turnstile.
Moi, je dirais forcément Fontaine d'ici. Genre vraiment, je rêverais de faire une première partie pour Fontaine d'ici. Ça fait partie de mes idoles, donc forcément, si on pouvait faire une première partie pour eux dans n'importe quel endroit, on y sera.
Moi, je pense que bon, c'est un peu plus niche, mais c'est un groupe qui performe plus trop maintenant, enfin plus du tout même. C'est mon groupe préféré, c'est Title Fight. Title Fight, qui est un peu issu de la même scène que Turnstile, justement, un peu post-hardcore et tout, mais c'est juste que, enfin, en termes de perf live, personnellement, moi, je m'inspire énormément de toute l'attitude qu'ils peuvent avoir. Et enfin, si un jour ils font un retour qui passe en France, oui, je serai le premier à aller postuler, à aller toquer à leur porte pour qu'ils nous prennent, même si voilà.
Hein. Ouais, moi, je vais dire comme ça, mais je pense Fontaine D.C. Qui est actuellement un des groupes qui est en train de tout péter. Ouais, Fontaine D.C., on sera là.
C'est les Rolling Stones de notre époque. Hein,
ouais, c'est des superstars.
En espérant que ce soir, ils soient dans la salle, qu'ils vous voient, qu'ils vous regardent, qu'ils gaffent, comme on dit.
On espère.
Bon, en tout cas, je vous remercie pour l'instant consacré à cette interview pour Restless. Je vous fais de gros bisous, comme c'est la tradition qui nous l'impose, ou quelque part, enfin, c'est la passion qui parle surtout sur Restless. Je vous souhaite un très très bon concert. Je vous dis à tout à l'heure sur scène. Je vous fais de gros bisous encore une fois.
Bah, merci à toi.
Toi, ouais, c'était grave cool.
Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées : Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.